Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 23 juin. Ben écoutez, on vous a quitté au printemps. On est théoriquement rendu en été.
Mais
ça a l'air un peu, ça a l'air un peu de l'automne. Ouais. Ça fait partie de nos saisons. Petite pluie légère, mais soleil en studio.
N'est-ce pas?
Ah! Alors, je suis accompagné de mes complices, quoi. André-Étienne.
Bonjour, André. Bonjour, Marie.
Et Marie Lalonde. Bonjour. Ben, vous voulez entendre parler de voyage, de nature, de science? Ben, vous êtes à la bonne place, hein?
Tout à fait.
On vous parle de ces sujets. Marie, tu nous parles de...
D'abord, je vais vous parler de plancton et de micro-organismes. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler d'un séjour dans 6 villes du nord de l'Europe.
Ah bien!
Yes, on va voyager.
André?
Ben moi, je vais continuer de vous parler du génie des animaux.
Mmh, oui.
Donc, du numéro de Science et Avenir.
Sujet que tu avais amorcé.
Oui, et puis Michel m'a dit qu'on avait eu du feedback de mon avis. Oui. Et cette fois-ci, je vais vous parler de l'empathie chez les animaux. Mmh. L'autre article portera, lui, sur le mystère aztèque, puisque, vous le savez sans doute, le musée de Pointe-à-Calière nous présentera cet été une exposition sur les Aztèques.
Mmh. Oui, qui devrait être fort intéressante. Hein?
Voilà, ça tombe juste à propos, donc c'est un article dont je vais vous parler tout à l'heure.
Quant à moi, je vais vous parler du rail, du train. Actuellement, qu'est-ce que c'est l'avenir du train? Pas seulement au Québec, hein, mais un peu partout dans le monde. Et est-ce que vous savez quel est le deuxième liquide le plus bu au monde? Ah, ben, je vais vous en parler.
Après,
le deuxième. Restez avec nous, vous allez le savoir.
Tease,
à tout de suite. Alors, l'avenir du rail, l'avenir du train, quoi. C'est un texte de Mathieu Perrault dans la presse du 19 avril. L'automne dernier, les trains à haute vitesse ont fêté leur demi-siècle. Et depuis leur début au Japon, en 1964, donc ça ne date pas d'hier, hein, la vitesse maximale des TGV est passée de 210 km/h à 350. Et je peux vous dire qu'il y a quelques semaines, il y a un train qui a dépassé la vitesse de 603 km/h.
Wow, wow, wow.
C'est une courte distance, cependant. Mais c'est à l'état
Vous étiez attaché,
à l'état de projet, oui, il faut mettre sa ceinture.
C'est On ça. A intérêt.
Le premier train à grande vitesse au monde, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le Shinkansen au Japon, qui, si ma mémoire est bonne, veut dire rapide. La première ligne a ouvert en octobre 1964. C'était juste avant les Jeux olympiques de Tokyo. Et ben, depuis, les TGV ont conquis l'Europe occidentale et la Chine aussi, à coup de légères améliorations, petit à petit. Mais le meilleur reste à venir, des trains qui lévitent au-dessus des rails à plus de 500 km/h. La technologie est là. On dépasse 500 km/h depuis plus de 30 ans. Et on est arrivé à améliorer la sécurité. Mais c'est le coût, hein? Les coûts sont prohibitifs dans un ordre de grandeur 10 fois celui de la vitesse conventionnelle.
Wow.
Mais avec le maglev, on parviendrait à rendre le train incontournable pour les moyens courriers.
Michel, maglev, ça
veut dire quoi? Le maglev, c'est en gros, ça veut dire lévitation magnétique. Magnetic levitation, maglev. Ça repose sur le phénomène que deux aimants qui se repousse, un positif, un négatif.
Oui. Mm-hmm.
Quand on était jeune, on faisait le test. Oui. Ben, c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas de friction. Mais son coût prohibitif, la limite pour le moment, à un trajet de 30 km entre l'aéroport et le centre-ville de Shanghai. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, c'est très, très cher. C'est une vitesse de pointe de 430 km/h quand même. Mm-hmm. Ben, d'autres progrès sont prévus pour les aéroports de Pékin et aussi de Séoul. Il n'y a pas eu de grandes innovations depuis un demi-siècle, mais les gains constants d'efficacité qui rendent maintenant certaines lignes rentables, sans nécessité de subventions. Excusez. On a eu des TGV français à 2 étages, des trains plus longs, plus larges en Chine, et une amélioration constante en termes de matériaux et de puissance des moteurs pour diminuer le poids particulièrement. Une autre grande innovation n'a pas été technique, mais ça a été plutôt du côté de la gestion. La diminution du poids des wagons de vitesse permet non seulement d'augmenter le nombre de passagers, mais surtout, ben, les revenus aussi, mais de diminuer l'usure des rails. Mm-hmm. Ah, c'est très important. Pour l'avenir, on peut penser que les matériaux composites, pour le moment, qui sont trop chers, ainsi que l'impression 3D.
On a parlé, tellement entendu
dans les trains pour l'impression 3D. Et ça va bien sûr améliorer le poids des wagons. En 2011, un rapport québécois a ressuscité le projet de TGV entre Québec et Windsor. Ça fait, je peux vous dire, ça fait des décennies, je pense, qu'on en parle. Dans cette mise à jour d'un rapport de 1995 chiffrait à 21 milliards le coût d'un TGV électrique capable d'atteindre 300 km/h. Ben, s'il était moins rapide, 200 km/h, il coûterait à peine moins cher, 19 milliards. Mm-hmm. Mais on est un peu plus loin du TGV à ce moment-là. Hein.
Ouais. Mm-hmm.
C'est la quatrième étude sur le sujet. Et chaque fois, on voit que les conditions de faisabilité sont comparables aux lignes à haute vitesse existantes dans le monde. La région Montréal-Toronto est assez dense pour rentabiliser un train à haute vitesse. Un des problèmes ici, c'est que ça nécessite une voie séparée. La fréquence des trains de marchandises limite beaucoup celle des trains de passagers, via rail, entre autres choses. Alors, investir 20 milliards pour un train qui ne donne pas de service aux heures de pointe, le matin et le soir, bien, c'est un petit peu ridicule.
Tout à fait.
On se pose la question.
Est-ce qu'on a des exemples de TGV dans le monde?
De train dans le monde. On a je parlais du Shinkansen qui date de 1964. Ce qui augmente le coût, c'est qu'il y a des voies différentes. C'est la même chose en Espagne aussi. Dans les deux cas, le gabarit, vous savez, le gabarit, c'est la distance entre des rails, il est différent du reste du monde, il est différent d'un train à l'autre. En France et en Allemagne, les TGV roulent sur des voies régulières. En Allemagne, les trains de marchandises roulent pendant la nuit, ce qui n'est pas possible ici, car les trains de marchandises sont trop fréquents. En Italie, on utilise la technologie pendulaire. Technologie pendulaire, c'est que le train penche dans les courbes.
Ah.
Et ça réduit sa vitesse. Hein? Et c'est la même chose en Suède. Ça ramène à 250 km/h à ce moment-là.
Mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt d'un train pendulaire?
C'est quoi le?
L'intérêt?
C'est à cause de la vitesse. C'est plus moins risqué, je dirais, je penserais.
Mm-hmm.
Ouais. À noter que le TGV a sonné le glas de certaines liaisons aériennes en Europe. Les courts trajets, je pense en Paris et Lyon, Madrid et Séville, par exemple. C'est aussi bien prendre le TGV, le temps de se rendre à l'aéroport et le reste.
Hein. Ben oui.
Et certains croient que, vous savez, qu'est-ce qui pourrait faire, qui pourrait menacer le TGV un peu partout dans le monde?
Non.
On en a parlé récemment. C'est la voiture autonome.
Ah oui.
Ah, la voiture autonome, bien sûr. Tu sais. Et on parle même, il y a très longtemps, j'avais écrit quelque chose, j'avais lu quelque chose là-dessus, un train dans un tube sous pression.
Mm-hmm.
C'est une question de coût, essentiellement, parce que c'est réalisable. On l'a fait, cette chose-là, et qui irait à 1200 km/h.
Quand même.
Vous imaginez?
On cligne des yeux, on est rendu.
Plus rapide que l'avion. Donc, c'était à partir d'un texte de Mathieu Perrault dans la presse du 19 avril.
Bon, et puis donc, j'avais dit que j'allais vous parler donc du génie des animaux et de l'empathie spécialement cette fois-ci. Alors, l'article commence avec une question. Les éléphants honorent-ils leurs morts? Pas de réponse. En tout cas, ils leur rendent visible. En 2006, des chercheurs d'Oxford et de Californie ont vu défiler une douzaine de pachydermes de la réserve nationale de Samburu au Kenya, au chevet d'Eleanor, une femelle dominante, puis ensuite auprès de sa dépouille. Elle a été flairée, palpée, observée, des heures durant, raconte le zoologue. Tout au long des 2 jours de son agonie et jusqu'à 5 jours après sa mort, la matriarche a reçu la visite des membres de 5 familles différentes de pachydermes, dont 4 étaient sans lien de parenté proche. Alors, on peut se poser la question, qui les avait prévenus? Pourquoi sont-ils venus? Et l'auteur se pose la question en disant « S'agit-il, comme le pense le chercheur, d'une preuve de compassion étendue au-delà des liens familiaux chez les pachydermes ?» Il existe d'autres grands mammifères qui manifestent des comportements qui s'apparentent au deuil chez les humains. Par exemple, en 2010, une caméra qui est placée dans un safari park écossais a surpris des chimpanzés veillant une femelle âgée, puis la secouant après sa mort à la recherche de signes de vie. Contrairement à l'usage, les soigneurs avaient, dans cet endroit, laissé mourir Pansy 50 ans parmi les siens. C'est relativement rare, hein? Parce que c'était un groupe de 4 singes avec lesquels elle avait partagé 20 années de captivité. Et les jours précédant la mort, les chimpanzés, qui sont inhabituellement silencieux, ont redoublé d'attention envers la malade, la toilettant longuement, lui fabriquant un nid. Et quelques minutes avant sa mort, ils ont multiplié les caresses sur sa tête, sur son torse. Quand le trépas est survenu, ils ont inspecté la bouche de la guenon, soulevé ses membres, voire secoué son corps. Et par la suite, Rosie, qui est donc la fille de Pansy, l'a veillée toute la nuit, puis a elle aussi reçu des soins de toilettage inhabituellement longs. Le lendemain, les chimpanzés ont débarrassé la dépouille de sa paille et après une nuit agitée, ils ont plongé dans une humeur silencieuse, léthargique, plusieurs semaines durant. Ils ont même refusé pendant 5 jours de dormir sur la plateforme où la guenon était morte, même après qu'elle était nettoyée. Alors bon, c'est tentant d'établir des parallèles avec des comportements humains.
Oui.
Lorsque le mâle secoue le corps, cela pourrait s'apparenter à une tentative pour le ramener à la vie. Ça pourrait s'apparenter aussi à une forme de déni, de colère. Mais et l'épouillage soutenu serait une consolation, l'humeur sombre du groupe, le deuil, la tristesse. Le fait que ces animaux avaient vécu si longtemps en vase clos leur a permis de développer des liens plus étroits que les chimpanzés sauvages qui, eux, évoluent dans des bandes de 15 à 100 individus qui ont une composition fluctuante. Mais dans la nature, on avait déjà observé des mères qui portaient le cadavre de leur petit jusqu'à sa momification.
Quand même,
hein, c'est surprenant.
Ah, c'est fascinant.
Hein.
Fascinant le comportement des animaux.
Vraiment.
Est-ce qu'on a d'autres exemples?
Qui témoignent de l'empathie?
Oui, c'est ça.
Eh bien, justement, des éthologues portugais ont relaté plusieurs épisodes au cours desquels des dauphins avaient ramené le corps inanimé d'un nouveau-né jusqu'à la surface de l'eau. Selon les espèces, on peut dire que le manège ou le rituel pouvait impliquer jusqu'à 4 dauphins et durer de quelques minutes à plusieurs jours. C'est intéressant, hein?
Oui.
Alors, j'ai un autre exemple encore qui concerne une petite macaque. Elle s'appelle Azalea et elle naît en 1988. Et on diagnostique chez elle une forme de trisomie rhésus. Elle n'arrive pas bien à sauter, courir, grimper, se nourrir. Alors, sa mère, évidemment, se montre particulièrement protectrice. Ses sœurs la portent souvent. Et elle manifeste donc peu d'activité de toilettage vis-à-vis des autres animaux, ce qui fait partie normalement de leur vie sociale. Et par contre, en revanche, en dépit de sa difficulté à appréhender les interactions sociales, elle fera l'objet à partir de 18 mois d'un toilettage supérieur à la moyenne de la part des autres singes. C'est comme si son handicap entraînait la compassion, on parle d'empathie hein, chez les animaux, c'est le thème, la compassion de toute la troupe, même de ceux qui ne lui sont pas apparentés. Et l'article précise en disant « Il n'est pas inhabituel chez les singes de veiller un compagnon blessé, de ralentir si un autre ne tient pas le rythme, de cueillir un fruit pour un aîné impotent. » Et l'éthologue Franz de Waal estime que sympathie, empathie et même moralité sont des composantes de leur héritage biologique. On a vu aussi des grands singes se porter au secours des membres d'une autre espèce. Hein. Et là, on parle du bonobo cuni, qui, par exemple, a remis un jour un étourneau qui avait été un peu sonné. Il le remet sur ses pattes. On parle d'un gorille, Binti, qui vole au secours d'un bambin qui est tombé dans son enclos au Brookfield Zoo de Chicago. Alors, j'en aurai encore une autre, mais je vais peut-être la réserver pour une petite brève, parce que je crois que j'ai plus trop de temps.
Bonne idée.
C'était donc un article de Science et Avenir du mois avril-mai de 2015. Il n'y avait pas d'auteur spécifique, parce que c'est tout un dossier.
café réveillent un lion. Devant sa consommation, il voit venir une abeille vêtue d'un tailleur quereille, de noir avec le soleil, une petite merveille. Elle grésille, elle bourdonne avec l'accent de Narbonne, et gentiment elle butine un diabolo grenadine. Ainsi rêvassait le lion devant sa consommation. Il voit venir un moucheron vêtu d'un complet marron, avec des ailes sur le tronc et une mèche sur le front, qui grésille, qui s'éseille avec l'accent de Marseille, qui lui casse les oreilles et lui arrive à l'orteil. Petit, je suis le lion. Allez, va jouer au ballon. Tu peux t'éponger le front, avoir les jambes en coton. Ici c'est moi le patron, c'est moi qui donne le ton. Tu s'essayes, tu grésilles et tu tournes autour des filles. Un conseil, tiens-toi tranquille, tu vas t'asseoir sur le grill. T'es prêt comme une fourmi et tu veux te battre avec moi. Allez, sois raisonnable, je suis trop fort. Si tu t'en prends à la pègre, tu finiras dans le vinaigre. Allez, tiens-toi tranquille, sinon t'es mort. Le lion n'a rien vu venir, le moucheron sans prévenir lui a mis un coup de Satan à la pointe du menton. Il n'en revient pas le lion, et ce n'est qu'un échantillon. Un coup dans les testicules, ça c'est de la part de Jules. J'aime pas tellement qu'on me bouscule quand je me rince les mandibules. Cette histoire est une fiction. Moi, j'ai rencontré le lion, je lui ai mis, c'est ridicule, un coup dans les testicules. Il m'a dévoré tout cru, au beau milieu de la rue. Je grésille, je s'éseille, et dans le dos j'ai des ailes. J'ai l'éternité au ciel, grâce à mon exploit de la veille.
C'était les malheurs du lion de Thomas Fersen. Ah. Alors maintenant, je vous lis un article dont le titre est « Maître des océans ». On parle ici des micro-organismes des océans. C'est un texte de Mathieu Perrault, publié dans la Presse Plus du 31 mai. D'abord, je vous présente la genèse du projet TARA, dont on va parler dans ce texte. Ce projet est né comme un écho du voyage du Beagle, au milieu du 19e siècle, dont les données ont inspiré à Charles Darwin sa théorie sur l'évolution des espèces. Le Beagle étudiait la faune et la flore visibles à l'œil nu, et Tara, celle qui n'apparaît qu'au microscope, donc on est dans l'infiniment petit. Un parallèle existe avec le séquençage du génome humain, au départ un immense projet gouvernemental américain qui a presque été coiffé au fil d'arrivée par la firme privée Celera. Dans le cas du plancton, c'est l'homme d'affaires qui a fondé Celera, un monsieur Craig Venter, qui a lancé le premier projet, Sorcerer, qui a recueilli des échantillons d'eau de mer entre 2003 et 2011. TARA, un projet gouvernemental international, affirme avoir des moyens techniques plus poussés que Sorcerer. Et le bilan de cette gigantesque traque du plancton et des microbes des océans du monde durant 4 ans, à bord d'un voilier français, c'est plus de 11 gigabits de données génétiques. Les résultats préliminaires des expéditions TARA ont été publiés récemment dans la prestigieuse revue Science. Le premier constat, Les micro-organismes affichent une remarquable diversité génétique et survivent dans des conditions inhospitalières. Nous avons observé avec surprise que la diversité génétique des micro-organismes était semblable partout sur la planète. Nous pensions qu'il y avait des endroits où il y avait très peu de diversité et d'autres où il y en avait beaucoup, a expliqué Éric Carcenti, biologiste français à l'origine du projet TARA. La présidente de l'Académie des sciences des États-Unis, Marcia McNutt, a publié dans Science, avec les premières études tirées des données de TARA, un éditorial où elle avertit que les changements climatiques pourraient influer sur le fonctionnement des micro-organismes des océans, dont le fonctionnement est essentiel à la chaîne alimentaire mondiale. Le facteur maritime le plus important pour déterminer quels micro-organismes vivent à un endroit particulier est en effet la température. Deux autres résultats de TARA pourraient toutefois indiquer que le plancton et les virus marins sont résistants aux changements de leur milieu de vie. Tout d'abord, 73 % des gènes des virus marins se retrouvent dans le corps humain. On comprend donc que pour se retrouver dans le corps humain, le plancton et les virus marins sont passés par toutes les mailles de la chaîne alimentaire en résistant aux changements de leur milieu de vie. Ensuite, la remarquable stabilité de la diversité des micro-organismes pourrait signifier qu'ils peuvent apparaître et disparaître au fil de l'évolution des conditions maritimes. Selon un biologiste de l'Université de l'Arizona, il est clair que les changements de température vont modifier les espèces de virus présentes dans un écosystème particulier et les fonctions qu'elles y remplissent. Mais cela ne va que minimalement affecter les fonctions des gènes disponibles, probablement seulement les gènes flexibles nécessaires à l'adaptation à un nouvel environnement. La stabilité de la diversité génétique des micro-organismes marins renforce l'hypothèse de la banque de semences, selon le spécialiste. Chaque échantillon semblait avoir presque autant de diversité génétique que tous les échantillons réunis. Cette stabilité de la diversité n'est pas la seule surprise provenant des analyses préliminaires basées sur moins de 2 % des échantillons recueillis, ce qui, avouons-le, est tout de même assez peu comme échantillon. Exemple de surprise qui provient de ces analyses, certains des micro-organismes les plus petits ne sont pas beaucoup affectés par la gravité terrestre, parce qu'une autre force, appelée viscosité, a plus d'influence à ces dimensions très réduites. Il s'agit d'une force similaire à celle qui empêche une goutte d'eau de tomber d'un filet à mailles serrées. Le défi est maintenant de trouver une manière de cultiver ces micro-organismes en laboratoire.
Ben, pourquoi on voudrait cultiver les micro-organismes en laboratoire, en fait?
Ouais, alors, d'abord, une autre... Ce qui est important, c'est que plus concrètement, cultiver des virus marins en laboratoire pourrait aider à trouver de nouveaux antibiotiques et à améliorer l'aquaculture. La question qu'on se pose aussi, c'est pourquoi c'est un défi? Parce que les océans sont très pauvres en nutriments. Contrairement aux éprouvettes en laboratoire, dit le biologiste, ça cause un choc pour ces microbes. Si nous arrivons à trouver une manière de faire des cultures dans des milieux très pauvres en nutriments, nous arriverons à faire des avancées scientifiques importantes. Voilà. C'était un texte de Mathieu Perrault, publié dans la Presse Plus le 31 mai.
Oui, alors je vous disais que j'avais encore une petite information à vous donner concernant l'empathie chez les animaux et je vais vous raconter l'histoire. Ça se passe un soir de mars 2013 dans le sud de la Chine. Une guenon attire soudain l'attention des primatologues. Ils vont filmer une scène surprenante. C'est un accouchement assisté par une véritable sage-femme singe. C'est fou, hein?
Oui, c'est fou.
Alors, il raconte en disant que la parturiente est donc une femelle de 5 ans qui s'apprête à mettre bas pour la première fois. Les contractions commencent. Alors, une autre congénère plus âgée qui vient de donner, elle, naissance à son cinquième petit observe la jeune mère. Au bout de 2 heures, elle décide d'intervenir pour faciliter le travail. Bon, et alors qu'apparaissent la tête et les épaules du bébé, elle vient se placer debout derrière la mère. saisit le nouveau-né de ses deux mains de chimpanzé, l'extrait, puis le prend sur sa poitrine avant de le toiletter. Pendant ce temps, la mère ingère le placenta. Ce type d'entraide n'est que peu documenté puisque un seul cas a été rapporté en 2013 chez un autre singe. Parce qu'il est extrêmement rare quand même. Les femelles primates, en principe, mettent généralement bas, seules, à l'exception notable des Homo sapiens que nous sommes. C'était un article qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Laurent Brasier et qui est toujours extrait de mon fameux Science et Avenir.
Alors moi, je vous parle de gros minous. Dans la forêt boréale, le lynx du Canada s'agite. L'heure de la reproduction a sonné. En mai, juin, naissent de 1 à 6 petits qui resteront avec leur maman jusqu'au prochain printemps, perfectionnant leur technique de chasse. Le lièvre d'Amérique constitue en fait 75 % de l'alimentation de l'espèce et les fluctuations de population de cette proie, qui suivent des cycles de 10 ans, ont un impact direct sur l'occurrence du félidé. Avec ses grands pieds coussinés et ses doigts à palmure parfaits pour la neige, sa vision de nuit hors pair et ses oreilles attentives qui s'allongent en longs pinceaux, le lynx du Canada est paré pour la chasse à l'affût sur son grand domaine de 16 à 20 km carrés.
Un magnifique animal, le lynx, hein, merveilleux. Je parlais de train, de... les lignes ferroviaires à haute vitesse dans le monde actuellement, c'est quand même 23 000 kilomètres. Hein. Et de ces 23 000 kilomètres, il y en a 11 000 kilomètres qui sont en Chine. Et on prévoit qu'en 2025, en Chine, il y aura 22 000 500 kilomètres, donc presque autant que ce qu'il y a dans le monde actuellement. Oui. Donc, il y a un avenir important en Chine particulièrement. Et en 2025, il y aurait 54 000. Donc, on devrait doubler. Alors, est-ce que le Québec va être là à ce moment-là?
On espère.
Depuis le nombre d'années qu'on se pose
la
question.
On a des doutes.
On espère.
Est-ce que vous savez quelle est la meilleure compagnie aérienne au monde actuellement?
Non.
Ça, c'est pas une invention. C'est la compagnie, la dernière compagnie avec laquelle j'ai volé récemment, qui est Qatar Airways.
Ah,
meilleure
oui.
compagnie aérienne
ah,
du
oui,
monde comme... selon le classement 2015 de l'organisme Skytrax. C'est la troisième fois que le transporteur atteint le sommet de ce prestigieux palmarès. Important, hein? Alors, je vous ai parlé du deuxième liquide ou breuvage le plus bu au monde.
Ah, là,
ben, c'est le thé.
On aurait dû pouvoir répondre parce que tu avais déjà parlé du thé.
Oui.
Ah, j'ai déjà parlé du thé, mais j'y reviens. Le deuxième breuvage le plus bu au monde. Parmi les théiers de Darjeeling, tiré d'un texte de Marie Soleil des Hôtels en presse du 25 avril. Vous savez, ou vous ne savez pas, que l'Inde produit plus de 1 million de tonnes de thé par année. Et le Darjeeling, très recherché, il compte seulement pour 1 % de ce lot de thé. Alors, une visite dans un jardin de thé de la région, ça s'apparente un peu à celle qui est offerte par une visite des vignobles en Europe.
Sans leurs vignobles.
Ce n'est pas du thé que vous buvez, c'est une infusion himalayenne magique et mythique. Bon, ça, c'est le gérant d'un jardin de thé. C'est pas moi qui dis ça, gérant d'un jardin de thé à Darjeeling. Depuis plus de 150 ans, sa famille cultive le célèbre thé du pays des orages. C'est joli, hein?
c'est joli.
Le nom tibétain de la région où pousse la Darjeeling. Darjeeling qui est une ville.
Tout est imagé dans ton article.
Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, partout dans cette région de l'État du Bengale occidental, il y a des théiers touffus qui s'accrochent aux pentes escarpées des vallées de l'Himalaya. Et c'est près de la frontière indo-népalaise. Et certaines datent des années 1850. C'est des théiers qui étaient importés de Chine et qui ont été plantés par les Britanniques qui ont développé le commerce. Ils sont cultivés dans l'une des 87 plantations qui sont situées de 400 à 2250 mètres d'altitude. Alors, des jardins de thé qui comptent des petits villages où s'éparpillent les maisons colorées des employés, on les voit à perte de vue. Et vous avez la cime enneigée du Kanchenjunga, Que vous connaissez bien, bien sûr. C'est le troisième sommet en importance hein, au monde, avec ses 8586 mètres en arrière-plan. Vous imaginez hein, la beauté de ce paysage.
Sans le voyageur en toi, là.
On peut déguster l'un des 15 échantillons de Darjeeling. Il les aligne sur une longue table. Et chaque thé a ses nuances. Et par une fenêtre de la pièce, vous pouvez apercevoir la fabrique où le thé est transformé. Des femmes, particulièrement, y déposent leurs lourds paniers remplis de feuilles qu'elles viennent de cueillir. Vivre au rythme du thé et en comprendre les secrets, ben, voilà l'expérience touristique qu'on vous propose dans ces jardins. Alors, même si le tourisme en est à ses débuts dans les jardins, certains sont devenus des lieux de retraite, parce qu'on peut y séjourner dans des bungalows de l'époque coloniale, s'y promener, découvrir, démystifier la transformation du thé. Des visites guidées magnifiques. Hein? Mmh. Alors, l'expérience, on peut la vivre chez l'habitant. Alors, vous avez une vingtaine de familles d'employés qui offrent des chambres dans leur modeste demeure. Et des autres nous disent, ben, on aime partager notre culture. Et vous pouvez manger le plat local aussi, qui est le bat. C'est du riz, une soupe aux lentilles, un curry de légumes. Les autres parlent anglais, un anglais limité de façon générale, mais souvent, ça va être les enfants. Qui vont traduire pour les parents. Et l'argent qui est ainsi gagné va servir à payer l'étude des enfants. Donc, c'est très bien. C'est vraiment une communauté très, très attrayante. Hein? Ça favorise accueillir les touristes, ça favorise l'autonomie des femmes aussi. Beaucoup de femmes qui travaillent dans ces plantations. On est dans un endroit qui s'appelle Glenburn. On y boit le thé, le petit doigt en l'air, et on prononce « please » avec un accent british. Bon, pour dire que c'est d'origine anglaise. Oui. Hein? Vous avez deux bungalows fastués aux lignes coloniales. Donc, c'est un peu différent de ce dont on parlait avec les bungalows des...
Vous pouvez nous imaginer en studio avec les petits doigts
en l'air. Oui, petits doigts en l'air. Hein? Vous avez près de 3800 personnes, des employés et leurs proches qui vivent dans ces endroits-là. Ils comptent 9 communautés, 7 écoles, 3 garderies, 2 infirmeries. Donc, c'est des gens qui sont quand même bien organisés, bien traités. Les cueilleurs récoltent les jeunes pousses en bavardant, les enfants s'amusent alentour. Et aussitôt qu'ils sont cueillis, les feuilles sont transformées, immédiatement. Au repas du soir, servi dans la salle à manger, les convives savourent des mets aux légers accents indiens. Au fait, il y a au moins, je parlais de mythe au début, il y a au moins un mythe qu'on véhicule là-bas. C'est celui de la découverte du thé par l'empereur chinois, que vous connaissez bien, Shen Nong, en 2737 avant Jésus-Christ.
Évidemment.
Le vent aurait fait tomber une feuille de thé dans l'eau chaude qu'il s'apprêtait à boire.
C'est joli.
Michel, qu'est-ce qu'il y a de spécial, le thé de Darjeeling?
Le thé de Darjeeling, c'est qu'on pratique en général la cueillette. C'est une cueillette qu'on appelle dite fine. C'est-à-dire qu'on récolte seulement les bourgeons et les deux premières feuilles dans le théier. Oh. Donc, vous imaginez
la finesse de ce
thé-là. Hein?
Moi, j'ai une question aussi, là.
Oui, allez.
Est-ce que c'est le temps?
J'espère avoir la réponse.
Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est la différence entre le thé noir, le thé vert, le thé blanc...
Étonnamment, j'ai été très étonné. Même si le thé noir de Darjeeling, c'est le plus connu, on offre aussi le thé vert et d'autres thés, et tous ces thés proviennent des mêmes arbres. C'est la transformation qui
fait la différence. C'est pas la cueillette? Moi, je pensais que c'était peut-être...
Non, pas du tout. C'est lorsqu'on le transforme. Si j'ai le temps, je vous parlerai un peu plus tard de la transformation du thé, qu'il y a plein d'étapes à suivre à ce moment-là. Et en terminant, je vais vous parler, lorsque le gérant vous fait visiter la plantation et déguste le thé avec vous, il le fait avec un bruit infernal que je n'imiterai pas en studio. Ici, on appelle ça sapé.
Sapé.
Sapé. Oui. Alors, ce qu'il fait, c'est que ça consiste à aspirer bruyamment. Vous avez l'image en tête. Hein?
Je ne ferai pas d'imitation.
À aspirer bruyamment pour tapisser la bouche de l'infusion du thé. Alors, je vous imagine dans un grand restaurant à Montréal en train de déguster un thé délicatement.
Le petit doigt en l'air.
Le petit doigt en l'air, oui.
En faisant... Ah, voilà. La dégustation. C'était un texte de Marie-Soleil des Hôtels dans la presse du 25 avril.
après ce voyage que nous venons de faire en Asie. Dit,
En sapant notre été.
Donc, je vous ai promis un article sur le mystère aztèque, extrait de Québec Science du mois de juin-juillet 2015. Et ce sont des propos recueillis par Elias Lévy auprès de l'anthropologue Louise Paradis, qui est diplômée de Yale. Alors, voilà ce qu'elle nous donne comme information. Elle dit que les deux plus connues des civilisations en Mésoamérique sont celles des Mayas et des Aztèques. Mais celle des Aztèques a été la plus influente par sa richesse, par son étendue géographique et sa complexité. Un petit peu d'histoire. Les Aztèques, ils arrivent dans le bassin de l'actuel Mexico vers 1250 de notre ère. Ils sont d'abord détestés, exécrés, méprisés, haïs par les peuples avoisinants. Donc ils vont errer et ils vont servir de mercenaires pendant des années avant de s'établir définitivement dans les marécages du Texcoco. Et c'est seulement en 1325 qu'ils vont fonder leur capitale, Tenochtitlan, qui deviendra officiellement Mexico en 1521. Selon la tradition, j'aime ça les traditions, le dieu titulaire des Aztèques, sont toujours des légendes comme celles dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais.
Donc le dieu titulaire des Aztèques avait dit à son peuple qu'il devrait ériger sa capitale dans un endroit marécageux où on pourrait voir un aigle sur un cactus. Et c'est en 1325, dans les marais, que le signe prémonitoire est apparu. D'ailleurs, au passage, un aigle sur un figuier de Barbarie dévorant un serpent est aujourd'hui l'un des symboles du drapeau mexicain.
Ah oui, c'est juste.
Mm-hmm. Voilà. Et c'est seulement en à peine un siècle, on peut dire grossièrement entre 1430 et 1520, que les Aztèques ont réussi donc à passer du statut d'une tribu de chasseurs-cueilleurs, dont on parlait, qui sont détestés par leurs voisins, à celle d'un État expansionniste qui va couvrir une bonne partie de la Mésoamérique. On peut se demander comment ils sont parvenus à édifier un empire aussi riche et influent en si peu de temps. Eh bien, c'est grâce au fait qu'ils ont réussi à créer une société qui est hautement hiérarchisée et centralisée, qui a consolidé son pouvoir en utilisant deux stratégies politico-idéologiques. D'une part, une politique de conquête et d'expansion ainsi qu'une politique de commerce avec les peuples environnants, c'est intelligent, hein? Et d'autre part, ils ont pratiqué l'intégration de l'idéologie religieuse et du pouvoir sans pour autant demander aux peuples limitrophes d'adopter la langue aztèque ou de renoncer à leur religion.
Ah, ça c'est étonnant.
Ils se contentaient juste d'envoyer des fonctionnaires aztèques pour prélever les impôts, quand même.
Comment on explique la fascination que les expositions qui sont consacrées aux Aztèques puis à ces civilisations-là suscitent?
Oui, ben justement, je vous rappelle quand même au passage, je le disais tout à l'heure, on a une exposition à Montréal Aztèques cet été au Pointe-à-Calière.
Oui, tout à fait.
Eh bien, pour répondre, Marie, ce sont la richesse, la puissance, la majesté des civilisations anciennes. Les objets, les rites, les temples, les calendriers et les sites archéologiques continuent de nourrir les imaginaires collectifs. L'anthropologue donne une autre explication aussi. Elle dit que peut-être c'est par l'important mouvement de revendication identitaire qui est apparu dans les Amériques récemment. Donc, ça pourrait être une réponse à la question.
Je pense que la mort occupe aussi une place importante dans l'idéologie politico-religieuse. Hein?
Absolument, absolument. Le sacrifice humain devient, sous les Aztèques, une véritable institution. Et il devient même le principal moteur des conquêtes militaires. Ça s'explique par la soif des divinités, le soleil, autres forces de la nature, pour le sang générateur de vie qui en fait une nécessité. Le sang générateur de vie. Chez les Aztèques, il faut savoir que tout principe de vie, le soleil, la lune, la naissance des hommes ou n'importe quoi d'autre, doit son origine et surtout sa perpétuation au sacrifice qu'ont fait leurs dieux. Par exemple, Quetzalcoatl verse son sang sur les ossements qui seront ceux des hommes. D'autres dieux se sacrifient aussi pour se métamorphoser en soleil et lune. Donc, tous leurs dieux offrent leur sang pour que le soleil continue à donner la vie aux hommes et à la nature. Et par conséquence, les Aztèques doivent donc se sacrifier aussi, puisque pour eux, le sang des créateurs et ensuite le sang des hommes est le seul qui puisse assurer la pérennité de la vie. Il y a une phrase comme majuscule, c'est « la vie naît de la mort et la mort naît de la vie.
Comme un juste retour des choses.
Exactement. Mais comment, une circulation des choses.
Comment une civilisation aussi prospère, puissante, est-ce qu'elle a-t-elle pu être aussi vite anéantie?
Oui, c'est assez étonnant. Hein? Dans le cas des Aztèques et des Incas, la réponse historique est très précise. C'est l'arrivée des conquistadors espagnols.
Ben oui, malheureusement.
Exactement. Ouais. En 1519, précisément, Cortés arrive avec 600 hommes, 16 chevaux, 14 canons, et en l'espace de 2 ans, il va détruire l'empire en question. Cortés, il avait été futé, il avait très vite compris que les Aztèques avaient consolidé leur légitimité et leur pouvoir politique grâce à leur puissance économique basée sur l'or, les tissus, le cacao. Le cacao, c'était le produit alimentaire de base qui servait de monnaie d'échange.
Ah oui.
Alors, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il s'allie à plusieurs peuples de la région qui, eux, veulent s'affranchir de l'oppression aztèque. Et en 2 ans, il détruit l'Empire aztèque.
On a fait la même chose avec les Incas. Hein?
Oui, exactement.
En Amérique du Sud.
Exactement. Et justement, ça se passait 20 ans plus tard, entre 1532 et 1533. Le scénario va se reproduire. Je cite donc textuellement... Ce sont des raisons économiques qui ont entraîné leur chute. L'avidité sans scrupules des conquistadors, leur immense désir de faire fortune rapidement qui ont détruit ces empires qui paraissaient pourtant invincibles.
On confond souvent les Aztèques, les Mayas, les Incas. Est-ce qu'on peut... tu peux nous préciser?
Savoir ce qu'il en reste?
Qu'est-ce qui reste de ces civilisations?
Oui, les descendants des Aztèques qui vivent au Mexique. Ceux des Mayas... au Mexique, Guatemala, Belize, Honduras et Salvador.
Amérique centrale.
Ça, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la Mésoamérique dont on parlait tout à l'heure. Les descendants des Incas, eux, ils vivent en Équateur, au Pérou et en Bolivie. C'était un article de Science et Avenir de juin-juillet 2015, écrit par Elias Lévy.
Alors, je vous fais voyager maintenant sur la route du Nord, de la France au Danemark. C'est un texte de Antoine Aubert, de l'agence QMI, qui a été publié dans le journal de Montréal, lien avec cette fois-ci rapide et économique, qui est composé de 6 étapes. Lille, Bruges, Bruxelles, Amsterdam, Hambourg et Copenhague. On parle d'un voyage de 14 jours, économique parce qu'on vous propose des déplacements en train, entre chacune des villes, et le coût des billets variant entre 25 et 80 $ pour passer d'une ville à l'autre. Première étape, à Lille, en France. La plus grande ville du nord de la France fait immédiatement tomber tous les a priori sur la morosité de la région. L'architecture flamande y est lumineuse, à l'image de la vieille bourse, construite au XVIIe siècle. Comme pour toutes les villes ici citées, une découverte à pied ou à vélo est recommandée. Les ruelles pavées du vieux Lille, héritage restauré de la période pré-industrielle, se savourent autant que ses nombreux estaminets, notamment dans la bien nommée rue de la Soif.
Ah, j'aime bien.
Faut le faire quand même.
J'aime bien.
Le mot estaminet, j'aimais ça.
Oui. On vous conseille d'y dévorer un Welsh, plat où le cheddar fond sur un pain et du jambon, le tout recouvert de bière. Deuxième étape, 2 jours à Bruges, en Belgique. À un peu plus d'une heure et demie de Lille, voilà la Venise du Nord, un surnom donné également à Amsterdam et Stockholm. On comprend vite la comparaison. Belle, Bruges l'est tout le temps, partout. Des balades dans le centre-ville, le long des canaux ou une découverte de la ville en bateau vous feront découvrir l'architecture médiévale de cette ville joyau. Les fameuses maisons avec pignons à redans symbolise l'âge d'or de la cité marchande.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, les maisons à pignons à redans?
Bien sûr, il s'agit de toitures en forme de triangle, en gradin ou en escalier, ou comme des paliers, il y a des paliers sur chaque côté. C'est très, très typique et on en retrouve notamment à Bruges. Mais l'attractivité touristique de Bruges a rendu le prix des logements et des restaurants exorbitants pour ceux qui ont un budget serré. Le deuxième jour, en fin d'après-midi, prenez le train pour arriver en une toute petite heure à la troisième étape du voyage pour deux jours à Bruxelles, toujours en Belgique. Moins esthétique, certes, mais plus vivante et accessible. Bruxelles, c'est une triple capitale de la Wallonie, de la Belgique et de l'Europe, et elle fait figure d'énigme. D'abord, la Grand Place, avec ses splendeurs gothiques et baroques, ainsi que les quelques édifices Art Nouveau de la ville, émerveille. Par contre, on rirait presque en découvrant la taille minuscule du Manneken Pis. Quand les touristes choisissent de s'agglutiner tout autour, on peut même avoir du mal à voir cette statue d'un petit garçon en train de faire pipi, devenue une fierté nationale. Pour sa part, le quartier des institutions européennes étonne par son austérité. En réalité, Bruxelles n'est pas une ville qui se voit, elle se vit, nous disent ses habitants. Pensez plutôt à passer du bon temps en parlant avec des Bruxellois bon vivants, en buvant de la bière, en vous goinfrant de frites, de gaufres et de chocolat. Quatrième étape, trois jours à Amsterdam, aux Pays-Bas. À 2 heures de Bruxelles, Amsterdam est l'une de ces villes européennes qui, comme Paris, Venise ou Bruges, frappe d'entrée par sa beauté. À peine descendu du train, on est happé par ses innombrables ponts, ses canaux, ses splendides maisons qui trônent au bord de l'eau. On reste aussi estomaqué devant la forte présence des vélos qui font la loi dans la ville. Soyez avertis, vous allez vous faire klaxonner plus d'une fois. On ne se lasse jamais de cette douceur de vivre néerlandaise. N'oubliez pas de passer par la case culture, Amsterdam offrant dans ce domaine deux chefs-d'œuvre, l'immense Rijksmuseum, ici je m'excuse pour mon néerlandais, qui abrite notamment les tableaux de Rembrandt et de Vermeer, et le musée Van Gogh, qui offre pour sa part la possibilité de découvrir les œuvres du génie autodidacte.
On peut y passer beaucoup de temps.
Oh oui. Cinquième étape, deux jours à Hambourg, en Allemagne. La deuxième plus grande ville d'Allemagne, située à 4 heures d'Amsterdam, est moins folle que Berlin, moins monumentale que Munich, mais son activité maritime lui a, malgré tout, donné un cachet unique. Une visite au port sur les rives de l'Elbe s'impose tant pour admirer les impressionnants docks que pour se balader dans le quartier des entrepôts. La brique est omniprésente sur ces bâtiments de style néo-gothique, séparés par des canaux. Les currywurst et les bières sont évidemment au rendez-vous au centre-ville. Au nord, la présence du fleuve, une nouvelle fois, vous offre de beaux panoramas. On a faim, hein? Promenez-vous le long du bassin d'Alster. Une balade en bateau peut être une bonne idée pour achever votre court séjour. Et on termine la dernière étape, 3 jours à Copenhague, au Danemark. Depuis Hambourg, il faut prendre là encore le train. Celui-ci est particulier parce qu'il grimpe sur un ferry pour rejoindre l'île de Seeland, où se trouve la capitale danoise. Copenhague est typiquement scandinave. Chère, propre, verte, magique grâce au soleil.
Wow, que d'adjectifs!
Triste ou nette quand les nuages l'emportent. La toute petite statue de la petite sirène, tirée du célèbre conte d'Andersen, veille sur le port de la ville.
Oui, comme le Manneken Pis, elle est très petite.
Tout à fait.
Il faut vraiment la chercher.
La balade le long du canal Nyhavn, avec ses maisons colorées, certaines plusieurs fois centenaires, ne déçoit pas. N'oubliez pas le parc Tivoli, dont les décors théâtraux entourant les attractions et les manèges créent une atmosphère féerique, particulièrement le soir, grâce aux jeux de lumière. Tout aussi surprenant, mais dans un autre genre, un détour par Christiania, autoproclamée ville libre, bâtie par un groupe d'altermondialistes, hippies, artistes et aussi des drogués, donne une idée de la puissance des idées libertaires dans le royaume du Danemark. C'était un texte d'Antoine Aubert de l'agence QMI, publié le 5 juin dans le Journal de Montréal.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, et écouter le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
C'est trop beau, il faut évidemment que je vous l'annonce quand même, mais tout le monde la connaît, c'est le plat pays de Jacques Brel.
Ah oui. Oui.
Michel, je crois que tu as une petite brève pour compléter ton article.
Je vais simplement compléter l'information sur le thé de Darjeeling. Hein. Mm-hmm. Je parlais que c'est la façon de transformer qui fait qu'on a du thé vert. La transformation, oui, ça se fait en différentes étapes. Il y a le flétrissage. On étale les feuilles sur une grille de 14 à 17 heures. Flétrissage. Ensuite, il y a le roulage. Il y a des machines qui roulent les feuilles sur elles-mêmes pour briser les cellules des feuilles. Il y a l'oxydation. Les feuilles sont oxydées dans un milieu très, très, très humide. Puis, le séchage, bien sûr. Et on arrête l'oxydation en séchant à 120 degrés Celsius. Et enfin, le triage. Les feuilles sont tamisées et triées selon leur taille. Ce qui fait qu'à la fin, on a du thé vert, du thé noir, d'autres thés, et qu'on peut le saper délicatement.
Saper, saper. Le sel qui déprogramme le cerveau. C'est une équipe de l'Université McGill qui a découvert un des mécanismes expliquant pourquoi le sel est si mauvais pour nos artères. Il dit que chez les rats, l'ingestion prolongée de sel fait dérailler les neurones chargés de libérer la vasopressine dans la circulation. La vasopressine, il faut savoir que c'est l'hormone qui provoque la rétention d'eau par les reins et cause une contraction des vaisseaux sanguins, ce qui augmente la pression artérielle. À force d'ingérer trop de sel, c'est un peu comme si la pédale d'accélérateur restait coincée. La vasopressine est libérée en trop grande quantité et la pression s'élève de façon incontrôlée. Alors l'équipe espère qu'à terme, sa découverte permettra de trouver de nouvelles voies thérapeutiques pour traiter l'hypertension chez les humains. Limitez votre consommation de sel en attendant. Mmh.
Alors, splish, splash.
Oh!
Oui, des petites brèves dans l'eau.
Pas avec le thé, ça.
Non, le foot bassin plonge dans l'eau à une vitesse de 100 km heure.
Wow!
Après avoir pris son élan à 10 mètres dans les cieux, quand même.
Oui.
La loutre de mer compte sur près d'un milliard de poils plutôt que sur une couche de graisse comme isolant dans les eaux glacées. Une petite, alors, les battements cardiaques des phoques passent de 125 par minute à moins de 10 en apnée. Quand même. Oh, c'est fou, hein? Assez impressionnant.
Oui, ouais, c'est impressionnant, ça. Hein?
Ben, avec ces bonnes nouvelles, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Hein? Ben, oui. J'espère que nos sujets vous ont plu. On essaie d'être le plus varié possible.
On essaie.
Faites-le nous savoir hein, en nous envoyant un mot, en nous écrivant à canalm.org ou si vous avez vues-et-voix.com. Donc, toutes sortes de façons de nous rejoindre. Alors, je vous remercie.
Pour, ben, merci aussi.
André, merci, Michel. Merci aussi à notre dévoué Mathieu Tessier. Et aussi pour les choix musicaux. Les choix musicaux qui appartiennent cette semaine à Yvan Deslauriers.
Oui.
On remercie. Hein? Alors, on vous souhaite une très bonne journée.
Et une bonne Saint-Jean.
Et
oui.
Une bonne vacances. Si vous partez en vacances, oui. Ne manquez pas de nous écouter cependant.
Ah oui, au revoir.
Au revoir.